Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif. Donc c'est Amnesty International pour la reprise d'antenne qui se passe techniquement un peu compliqué. J'ai eu une musique impromptue dans les oreilles, donc je ne sais pas
ce qui
se passe
à l'antenne. Oh, mais c'est juste parce que c'est une fin d'été, quoi. Coucou, bon. C'est nous revoilà.
Voilà. Donc
dans la bonne humeur.
Pour reprendre notre nouvelle saison d'émission sur l'antenne de Principe Actif, donc pour la défense et la promotion des droits humains, depuis plus de 10 ans maintenant qu'on fait ça, il y a avec moi ce soir Claire-Lise.
Bonsoir.
Edith.
Bonsoir.
Et Christian.
Bonsoir.
Donc, bon, voilà, je suis un peu perturbé par le générique.
Tout va bien aller, ta console va être gentille. Qui a été
perturbé, je ne sais pas pourquoi.
Oh, bah, voilà. C'était une musique qui voulait rester, mais bon, on va parler.
Donc, maintenant. On est très heureux de vous retrouver après la pause estivale, comme tous les ans. Tous les gens qui nous écoutent sur l'antenne de Principe Actif, en direct ou en podcast, on vous rappelle qu'on met tous les podcasts sur le site de la radio après les émissions. Et ce soir, on va faire la première partie de l'émission pour revenir sur l'actualité récente, les élections en France, l'évolution des droits humains en France, etc. Et toutes nos inquiétudes par rapport à ça. Et c'est Christian qui va vous lire un petit texte pour commencer.
Oui, un petit texte qui s'appelle « Que se passe-t-il donc en France ?» et qui est écrit par Anne Savinel-Barras, qui est donc la présidente d'Amnesty International France.
La nouvelle.
La nouvelle, voilà, effectivement. Merci. Notre pays vient de vivre une période perturbée et perturbante. Les semaines précédant les élections législatives ont été source de grandes inquiétudes, en particulier pour les défenseurs et les défenseuses des droits humains. Jamais nous n'avions entendu autant de discours de haine, de propos racistes et discriminatoires, de projets à la fois inégalitaires, injustes, totalement en opposition avec les droits humains. Que se passe-t-il donc en France ? Selon la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH, pour la première fois depuis 2005, c'est l'indice de tolérance relatif aux personnes juives qui a le plus chuté, même si les minorités roms détiennent encore le triste record de la tolérance la plus faible. Les préjugés envers les différents groupes ont récemment augmenté, dans un contexte de défiance vis-à-vis de l'autre. Dans le même temps, un discours haineux empoisonne certaines sphères politiques et médiatiques où la figure de l'immigré est rendue responsable des maux de la société. L'étranger y est stigmatisé, d'emblée, supposé incapable de se conformer à nos normes et valeurs, préjugés qui témoignent d'un profond racisme. Nos libertés fondamentales sont en danger. De graves menaces pèsent sur le droit d'expression et la liberté de réunion pacifique. Interdiction de manifester, recours excessif à la force, utilisation d'armes à létalité réduite ou de technologies de surveillance ciblée et de masse. Mais aussi dénigrement des organisations de défense des droits, incitation à restreindre toujours plus la liberté d'association, atteinte au pluralisme des médias et au droit à l'information. La liste ne cesse de s'allonger, hélas. C'est dans ce contexte que notre mouvement, comme d'autres ONG, a été insulté, diffamé sans vergogne. Le phénomène nous a surpris par son ampleur et son intensité inédite, nous amenant à répliquer pour rétablir la vérité et porter des messages forts à ceux et à celles qui rêvent de nous faire taire. Mais nous ne nous tairons pas, au contraire, nous allons crier encore plus fort pour résister à cette vague anti-humaniste. Il nous faudra resserrer nos rangs, ceux de tous les acteurs et actrices d'Amnesty International France, ainsi que ceux de tous les défenseurs et défenseuses des droits humains, partenaires, associations avec lesquelles nous formons un immense collectif qui a su montrer sa force et sa détermination. Ensemble, nous porterons encore plus haut nos combats contre l'antisémitisme, contre l'homophobie, contre l'islamophobie, contre le racisme, contre les discriminations, tout simplement pour les droits humains.
Voilà, je pense que ce texte est suffisamment explicite par rapport à tout ce qui y est dit. Et moi, je voulais rajouter, alors bon, c'est un petit vécu personnel que j'ai eu pendant la période des élections et juste avant. À deux reprises, une fois en tenant un stand de signature de pétition dans le cadre des actions d'Amnesty et une autre fois en discutant avec deux autres personnes, je me suis rendu compte à quel point la désinformation, les fake news et... la naïveté des gens, on va utiliser ce mot-là, la naïveté des gens était posée question.
Déconcertante,
voilà. La première fois, donc, c'était un stand de signature de pétition Amnesty. Il y a une personne qui est venue signer les pétitions qu'on présentait, après les avoir lues soigneusement, et qui après nous a dit « Mais vous savez, je vote pour le Rassemblement national ». Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse que je vais refermer très vite. Amnesty International, dans ses principes d'action, n'appellera jamais à voter pour ou contre un parti politique. Par contre, et ça a été confirmé à la dernière Assemblée générale d'Amnesty International France au mois de juin, bien évidemment que les partis politiques, tels le Rassemblement national, qui dans leur programme ont énormément de mesures qui sont contraires aux droits humains, les ONG comme Amnesty ont bien sûr le droit de dénoncer toutes ces mesures et donc les programmes de ces partis. Donc je ferme la parenthèse. Donc cette personne nous dit après, je vote Rassemblement National. Et moi, je me suis permis de lui dire, mais vous ne considérez pas qu'il y a contradiction entre le fait de signer les pétitions que vous venez de signer et le fait de voter pour le Rassemblement National. Et elle m'a regardé très sérieusement, sans du tout rire, pour me dire, mais c'est vous qui vous trompez, si le Rassemblement National accédait au pouvoir, ce serait, et c'est ces mots, je m'en rappellerai toujours, merveilleux pour tout le monde. Donc là, je me suis dit, quand on lit effectivement les prises de position du Rassemblement national ou du Front national, merveilleux pour tout le monde, qu'est-ce que ça veut dire ? Et une autre mésaventure qui m'est arrivée au moment du deuxième tour des élections législatives, deux personnes qui manifestaient très, très bruyamment au niveau de la discussion le fait qu'ils soutenaient le Rassemblement national. Et je leur ai demandé aussi s'ils ne considéraient pas que c'était contradictoire avec la défense des droits humains. Et ils m'ont dit « Ah mais non !» Et de toute façon, le programme économique du Rassemblement national, c'était deux personnes apparemment de conditions économiques très modestes, le programme économique du Rassemblement national nous fera le plus grand bien vu que tous les autres partis politiques nous ont trahis avant. Et bon, et en disant, de toute façon, ils n'ont jamais accédé au pouvoir, donc on verra bien. Je me suis permis de leur répondre que mes parents avaient connu la Seconde Guerre mondiale et savaient ce que c'était qu'un gouvernement d'extrême droite. Et l'un des deux m'a répondu « Oh, de toute façon, j'étais pas né ». Voilà. Donc bon, moi, je me suis arrêté là au niveau de la discussion avec eux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, là aussi, l'impact des fake news, l'impact des programmes politiques complètement opportunistes, croire que le Rassemblement national aura un programme économique pour défendre, entre guillemets, les pauvres et les opprimés, c'est vraiment se mettre le doigt dans l'œil de façon très profonde. Et donc, voilà. Et donc, ça continue à me poser question en disant qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qui arrive à ces gens-là pour prendre des positions qui sont, en fait, argumentées avec des choses fausses de A jusqu'à Z. Moi, je n'ai pas la solution miracle par rapport à ça, mais je pense que c'est quand même quelque chose qu'on doit toujours avoir à l'esprit. Et ce que vous a dit Christian par rapport à la lutte contre les ONG, ben, ça en fait partie. Les chaînes d'information qui...
Certaines
chaînes d'information qui relaient des informations fausses à longueur d'antenne, à longueur de journée, et qui ne les demandent pas, effectivement, ça en fait partie. Et moi, la question que je continue... Et les réseaux sociaux, bien sûr.
Qui vont très, très, très vite, beaucoup plus vite que...
Et la question que je continue à me poser, c'est comment peut-on discuter avec des gens à partir du moment où les mots qu'ils emploient sont vidés de leur sens ? Parce qu'effectivement, considérer que le Rassemblement national serait un programme politique et merveilleux pour tout le monde, ou que le Rassemblement national peut défendre les petits, les opprimés, les immigrés, enfin, etc., etc., c'est vraiment sidérant. Voilà. Moi, je continue à dire que c'est sidérant. Donc, j'ai pas la solution, mais il faut toujours être vigilant et convaincu
et pédagogique. Et pédagogique. Expliquer et faire donner de la formation. Voilà. Et ça, c'est très, très compliqué tout de suite.
C'est ça. Et continuer à ce que Amnesty appelle l'éducation aux droits humains. Ouais, ça, c'est fondamental. Fait, oui. Parce qu'encore une fois, les libertés qu'on a, les droits qu'on a, etc., on sait quand on commence à les perdre, mais on sait jamais où ça s'arrête. Voilà. Et toujours sur le même sujet, je crois qu'il y avait Claire-Lise qui avait quelques commentaires à nous faire.
Oui, donc moi je voulais vous parler des réactions suite aux élections législatives. Alors c'était un joli petit article qui est paru le 8 juillet, où nous étions encore sous le coup du deuxième tour, avec quand même une pointe d'espoir.
Des ouvertures, voilà.
Des ouvertures.
Semble plus
J'ai
positive.
Promis de garder un langage amnistien, donc je ne vous dirai pas les petites réflexions un peu salaces que j'ai faites depuis, que mes camarades ont entendues, mais que je ne dirai pas à l'antenne, mais je pense que vous allez les deviner bien fort. Donc les droits humains doivent être replacés au cœur des décisions politiques. Donc, le résultat des élections législatives nous permettait d'espérer que les droits humains soient replacés au cœur des décisions politiques. Si la menace d'une attaque immédiate contre nos droits a été momentanément écartée, elle reste présente, et même bien présente, et nous oblige à la combativité. Nous appelons la nouvelle Assemblée à prendre un vrai tournant en faveur de nos droits. Voilà pourquoi le temps doit être dès à présent à la combativité. Combativité, car cette campagne législative a fait ressurgir des discours de haine nauséabonds. La banalisation des discours racistes nous alarme déjà depuis plusieurs années. C'est contre toutes les formes de rejet que cette nouvelle Assemblée va devoir lutter. Enfin, on l'espère. Nous alertons depuis plusieurs années sur le recul des libertés en France. Ce sont elles, nos libertés, qui vont devoir être garanties par cette nouvelle Assemblée. Deux exemples, la protection du droit de manifester, l'interdiction de la reconnaissance faciale dans l'exemple public. Un troisième point important, les personnes exilées ont été désignées de manière cynique comme boucs émissaires. Abîmées, menacées et stigmatisées, Elles ont plus que jamais besoin de protection par cette nouvelle Assemblée. Ces personnes ont besoin que les lois soient respectueuses de leurs droits fondamentaux. Là, on peut s'inquiéter sur ce qui est en train de se mettre en place. Et ces élections législatives peuvent replacer la voix de la France à l'international. La nouvelle Assemblée doit œuvrer au respect du droit international en protégeant les populations civiles. La France doit suspendre ses livraisons d'armes et de matériel de guerre à Israël. Donc il y avait, pour finir quand même, un petit mot qui tenait à saluer la mobilisation remarquable de la société civile qui a prouvé la force de l'Union et qui montrait bien que les droits humains sont notre socle commun. Et qu'effectivement, il y a eu une force de l'Union pour faire barrage à certaines idées. Et que malheureusement, c'est un petit peu détourné de ce qu'on avait pensé. Voilà, j'en dirai pas plus parce que j'ai promis de garder un langage très amnistien. Mais ça me démange.
Voilà. Disons qu'on est quand même un tout petit peu inquiet.
On est plus qu'inquiet, quoi.
Voilà, bah oui, on va pouvoir dire ça.
Donc nous interpellerons le futur gouvernement pour lui rappeler ses exigences et nous veillerons à ce que les droits humains soient respectés pour que chacun, chacune puisse jouir pleinement de ses droits et de ses libertés. Donc le combat continue.
Voilà, effectivement, je crois que c'est une bonne façon de commencer cette nouvelle saison, c'est de dire que le combat continue, et c'est aussi le sens de notre présence sur l'antenne d'Amnesty. On va faire un tout petit peu en avance, pour une fois. On va faire la première pause musicale, et on se retrouve juste après.
Thank you.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International, pour la suite de son émission. Et on vient d'entendre, en fait, quelqu'un qu'on avait vu en concert et qui nous avait soutenu au mois de décembre dernier, ça va faire bientôt un an, et elle s'appelle Anne Passeo, qui était en concert au Théâtre d'Evreux.
Et voilà. Ceux qui ont bien écouté ont vu que c'était les débuts de Didier, parce qu'on avait une autre musique.
Didier Rio,
voilà. On avait une autre musique, donc vous avez eu deux musiques pour le prix.
Vous les mixez, mais...
Bon, non, disons que ce n'était pas forcément volontaire.
Il y a une petite confusion, mais j'ai trouvé la solution pour arrêter la musique qui s'incrustait sur la mienne.
Peut-être que vous allez trouver ça très très bien, dites-le nous.
Donc voilà.
Mais c'est
Edith qui va continuer à nous parler de l'actualité des droits humains.
Voilà, donc moi, c'est une actualité un petit peu, vous savez, j'aime bien aller voir dans les pays dont on ne parle pas beaucoup, des petits points d'actualité. Des fois, j'ai même pas entendu au niveau des médias. Donc là, je vais vous parler d'une journaliste chinoise. Alors, on a dû déjà, il y a longtemps, à un moment, au moment du Covid, en parler. Elle s'appelle Zhang. C'est une journaliste citoyenne qui avait été emprisonnée pour avoir couvert le début de la pandémie de Covid-19 à Wuhan. C'est une ancienne avocate. Zhang Fang s'était rendue à Wuhan en février 2020 pour couvrir sur le terrain ce qui se passait. Elle avait publié sur les réseaux sociaux des informations dénonçant l'arrestation par les représentants du gouvernement, de journalistes indépendants et le harcèlement de familles de patients atteints de Covid. Et bien voilà ce qui lui est arrivé après. Elle a disparu de Wuhan en mai 2020. Il est apparu par la suite qu'elle a été arrêtée par les autorités chinoises, détenue à Shanghai, où elle a été déclarée coupable à l'issue d'une parodie de procès d'avoir cherché à provoquer des conflits et troubler l'ordre public. Et alors, là, dernièrement, on avait une bonne nouvelle. En mai, elle a été libérée après 4 ans d'emprisonnement. Mais ce qui s'est passé pour cette jeune femme, c'est que après sa libération en mai, elle s'est dite préoccupée par le fait que ses propos en ligne était surveillée par les autorités. Et selon les informations reçues par Amnesty, elle a été interrogée, d'ailleurs, à plusieurs reprises par la police au cours du mois de mai, du mois de juin, certains interrogatoires ayant duré plus de 10 heures. Fin août, il a été signalé qu'elle s'était rendue depuis Shanghai dans la province du Gansu, dans le nord-ouest du pays, pour manifester sa solidarité avec d'autres défenseurs et défenseuses des droits humains. Peu de temps après, lors d'une visite dans sa ville natale du Shaanxi, elle est soudain devenue injoignable. Et la société civile a signalé qu'elle avait été arrêtée par la police de Shanghai, située à plus de 1000 km de là. Donc, Zhang Zhang est détenue au centre de détention du nouveau district de Pudong à Shanghai. Alors, Amnesty, Sarah Brock, la directrice d'Amnesty, dit sa réincarcération malheureusement était prévisible, car elle présente la suite de continuer à défendre les droits humains. Et il y a une campagne de harcèlement à laquelle la soumet le gouvernement, y compris depuis sa libération en mai. Cette nouvelle incarcération souligne l'intolérance intraitable des autorités chinoises à l'égard de la dissidence et de Zhang Zhang, qui, malgré son emprisonnement injuste, a continué d'élever la voix en solidarité avec d'autres militants et militantes des droits humains après sa libération. Elle a été réincarcérée parce qu'elle a refusé de se taire. Alors, ce 2 septembre dernier, Zhang Zhang a eu 41 ans. C'était la première fois depuis sa libération qu'elle allait fêter son anniversaire. Or, au lieu de le célébrer en famille, elle a, pour la 5e fois consécutive, passé son anniversaire derrière les barreaux. Alors, effectivement, on demande aux autorités chinoises de libérer Zhang Zhang immédiatement, sans condition, et on va être vigilant pour suivre ce qui se passe pour elle, et quitte à écrire, manifester notre désaccord. Bon, Chine toujours, on va dire, hein, c'est vraiment la suite. Hein. Ils sont vraiment courageux, ces militants, de continuer, même après une incarcération comme ça, de montrer qu'ils sont contre ce qui se passe en Chine. Oui. Un autre pays.
Oui.
Alors, Bangladesh. Alors, Bangladesh, c'est compliqué parce que ça, on n'en parle pas beaucoup. Sur le site d'Amnesty, moi, j'avais vu qu'il y a eu des étudiants qui ont manifesté leur opposition à un manque de débouchés professionnels. Le gouvernement ayant récupéré beaucoup de postes pour leurs amis, les gens du gouvernement, mais pas pour les étudiants. Donc, il y a eu des manifestations en juillet. Il y a eu l'armée qui a tiré. Il y a une photo sur le site d'Amnesty. Vous pouvez aller voir. Un étudiant qui ouvre les bras et il a été carrément tué de plusieurs balles en plus. Hein. Et puis, après, en août, il y a la première ministre qui est partie. Donc, il y a maintenant Muhammad Yunus à la tête d'un gouvernement intérimaire du Bangladesh. Et il y a quand même une bonne nouvelle. Donc, c'est pour ça que je me permets de parler du Bangladesh, car lui a signé la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre la disparition forcée. Donc c'est quand même quelque chose de nouveau. On imagine une longue route menant à la vérité, à la justice, à des réparations pour les victimes et leurs proches au Bangladesh. Les disparitions forcées comptent parmi des violations des droits humains les plus cruelles et les plus déshumanisantes qui ont déchiré des familles dans le pays. Donc, on espère que ce gouvernement intérimaire va pouvoir œuvrer ratifier cette convention et promulguer une législation nationale solide, reconnaissant le caractère continu de ce crime et prenant en compte les cas de disparition forcée survenues depuis sa promulgation. Donc, on espère qu'il va avoir des moyens aussi et que ces étapes vont rétablir et renforcer la confiance des victimes et de leurs proches dans ce système. Donc, selon l'ONG Bangladesh, entre 2009 et juin 2024, au moins 708 disparitions forcées ont été signalées. Alors, c'est quand même positif, car après la démission de la première ministre, au moins 3 personnes disparues qui étaient détenues dans des prisons secrètes dans le pays ont été libérées. Michael Chakman, Abdulalid Aman Hamzi et Aman Bin Kassen. Et le 29 août, ce gouvernement provisoire a annoncé une création d'une commission d'enquête composée de 5 membres chargés d'enquêter sur les informations faisant état de ces disparitions. Donc à suivre, mais peut-être un petit point positif pour ce pays bien compliqué. Alors, je continue, Didier. J'ai encore droit à une petite info.
Continue.
Voilà. Alors, j'ai vu Myanmar et Myanmar, j'ai vu Rohingyas. Alors, vous vous rappelez, en 2017, ce peuple Rohingyas qui a été vraiment massacré par l'armée Myanmar, qui s'est retrouvé dans plein de pays à côté. Certains ont pu rester dans l'état d'Arakan, qui est un état au Myanmar. Eh bien, là, tout de suite, l'armée Myanmar fait face à des oppositions dans cet État et il y a des attaques meurtrières qui se multiplient contre les Rohingyas qui sont restés dans cet État d'Arakan. Et ça fait écho aux atrocités commises en 2017, a déclaré Amnesty à l'approche du 7e anniversaire de cette crise. Donc une fois de plus, ce sont les civils, les Rohingyas et la population civile d'Arakan qui payent pour ces massacres. Hein. Oui. Il y a des villages qui ont été brûlés et beaucoup cherchent de nouveau refuge dans des camps de réfugiés de l'autre côté de la frontière. Donc, l'autre côté de la frontière, c'est le Bangladesh, où les conditions économiques de sécurité et de subsistance se dégradent. Donc, quand on voit que le Bangladesh commence juste à essayer de s'en sortir un peu, il y a énormément de camps. Dans ces camps-là, il y a eu aussi, dans cette région-là, des cyclones qui ont complètement démoli les camps. Et on voudrait bien que les autres États un peu aident ces pays dont on parle jamais parce que ça va redevenir quelque chose de compliqué aussi bien au Myanmar aussi bien au Bangladesh. Donc des petits points positifs mais beaucoup de problématiques avec des attaques de l'armée complètement inconsidérées sur la population civile.
En parlant d'attaque de l'armée, je vais parler tout à l'heure, donc restez à l'antenne, je vais parler tout à l'heure des attaques faites par l'armée israélienne à Gaza. Un petit point d'information par rapport à ça. Mais avant, c'est Claire-Lise qui voulait vous parler de tout autre chose.
Eh bien oui, c'est la rentrée. C'est la rentrée, vous ne l'ignorez pas, donc la rentrée pour les vacanciers, mais aussi la rentrée pour les enfants. Sauf qu'en France, plus de 2000 enfants sont à la rue. C'est une situation inadmissible que dénonce l'UNICEF. Donc selon UNICEF France et la Fédération des acteurs de la solidarité, plus de 2000 enfants sont contraints de dormir à la rue en France. C'est inadmissible. On ne peut pas accepter qu'une société traite ses enfants de cette manière, dénonce l'UNICEF. Selon les données du baromètre, au moins 2043 enfants sont restés dans la nuit du 19 au 20 août sans solution d'hébergement à la suite de la demande de leur famille vers le 115. C'est une situation inadmissible. Donc plus de 2000 enfants sont contraints de dormir à la rue selon l'UNICEF France et qui alerte donc depuis le jeudi 29 août 2024 sur les conséquences désastreuses d'une enfance sans toit. C'est inadmissible, on ne peut pas accepter qu'une société donc traite ses enfants de cette manière, a déclaré à l'AFP la représentante de l'agence onusienne dans l'Hexagone, Adeline Hazan, qui dénonçant une violation flagrante des principes de la Convention internationale des droits de l'enfant ratifiée par la France. On est très très inquiet de voir que, loin de s'améliorer, la situation empire d'année en année. C'est une tragédie quand on connaît les conséquences désastreuses, tant en termes de santé mentale que d'éducation, conséquences pour les enfants bien sûr. Plus de 400 de ces enfants ont moins de 3 ans. Toujours selon les données du baromètre, en fait quand ils font remonter les données au niveau national, au moins 2043 enfants, dont 467 âgés de moins de 3 ans, donc sont restés sans hébergement la nuit du 19 au 20 août, sans solution d'hébergement, même quand la famille avait appelé le 115. Il faut dire que le 115, c'est le numéro d'urgence pour les personnes sans abri, mais dans beaucoup de départements et dans la plupart des départements, le 115 est saturé. Donc effectivement, même quand on appelle le 115, on n'a pas forcément une place d'hébergement. Alors c'est moins que les 3000 enfants qui avaient été recensés en octobre 2023, mais c'est un chiffre inédit en cette période de rentrée, en hausse de 3% par rapport à août 2023, en hausse de 27% par rapport à 2022 et de 120% par rapport à 2020. Cette hausse illustre un échec systématique des politiques de l'hébergement et du logement, selon les deux organisations qui épinglent des politiques de court terme et des orientations délétères de la loi anti-squat jusqu'à la baisse des APL. Donc en passant par le détricotage de la loi SRU qui impose aux villes des quotas de logements sociaux. C'est alarmant, le chiffre de 2000 est de surcroît largement sous-évalué, insiste l'UNICEF France et la Fédération la Fédération des acteurs de solidarité. Donc le baromètre ne prenant en effet pas en compte ceux qui ont renoncé à appeler le 115. Parce que là, c'est que par rapport à ceux qui ont appelé le 115. Les enfants vivant dans des bidonvilles ou dans des squats, ou encore les mineurs non accompagnés qui n'appellent jamais. Loin d'être nouvelle, la situation des enfants à la rue en France a franchi un nouveau cap cet été, à Lyon, où plusieurs femmes se sont retrouvées sans toit avec leur nouveau-né. Le gouvernement rappelle le président de la FAS, Pascal Brice, qui avait pourtant pris un engagement en 2022, celui de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'enfants à la rue, engagement que nous attendons toujours. On est face à un gouvernement démissionnaire qui n'a pas fait grand-chose et qui n'a même pas fait semblant de faire grand-chose, dénonce Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre, appelant le futur gouvernement à prendre à bras-le-corps la question du logement. Agir sans attendre, il faut agir sur les situations les plus graves. Si vous débloquez 100 ou 200 millions d'euros, ça permet de faire en sorte que les enfants dont on parle soient hébergés. On parle de 2000 enfants. La France a les moyens de le faire. Tout est question de volonté politique, ajoute-t-il. Le temps presse, abonde Adeline Hazan de l'UNICEF. À partir du moment où on n'a pas de logement, on ne peut pas aller à l'école dans de bonnes conditions. On ne peut pas se soigner dans de bonnes conditions. Le développement des enfants n'en sort pas indemne. Quant aux adolescents, ils sont eux exposés à des risques de trafic, de prostitution quand ils vivent à la rue, ajoute-t-elle. Il est temps que l'enfance, et en particulier l'enfance sans domicile, devienne une priorité gouvernementale en France. Alors, je vous ai fait ce... J'ai voulu vous lire cet article donc, de l'UNICEF, parce que je me rappelle que l'année dernière, à la rentrée des classes, je vous ai parlé du petit garçon Winner qui dormait à la gare avec sa maman. Et Winner, il était rentré au CP, sauf que quand il arrivait au CP à 8h30 le matin, il n'avait pas déjeuné et il avait dormi à la rue et il ne s'était pas lavé. Voilà. Cette situation-là, elle est insupportable. Elle se renouvelle cette année, même à Évreux. À Évreux, en ce moment, il y a au moins deux femmes, une avec 4 enfants, une autre avec deux enfants aussi, qui n'ont pas d'hébergement, qui dorment à la gare. Il y en a une autre qui dort sur la Madeleine, et c'est pareil, il y a 2 enfants qui sont inscrits dans des écoles, alors on est en lien, hein, on est en train de faire remonter toutes ces situations, qui dorment aussi à la rue. Il faut savoir que quand ces familles, l'été, elles peuvent aller à la Passagère, qui est un espace qui est ouvert pour les femmes et les enfants, hein, c'est un espace d'accueil-service où il y a un travail formidable qui est fait, sauf que ça ouvre à 8h30. Donc les enfants, quand ils y vont pour se laver ou pour déjeuner, c'est à 8h30 le matin. Sauf que quand l'école commence, eh bien, faut choisir. Soit ils déjeunent, soit ils vont à l'école, mais ils ne peuvent pas faire les deux. Donc ça existe à Évreux. Et puis il y a aussi les mineurs non accompagnés. Il y en a quand même une quinzaine qui ne sont pas pris en charge par le 115, puisqu'ils sont mineurs, et qui ne sont pas pris en charge par l'ASE, puisque l'ASE a décrété qu'ils n'étaient pas mineurs. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle les nini. Ils sont à la rue. On cherche des hébergements solidaires. Si vous avez un grand appartement qui est inoccupé, si vous avez de la place dans une maison, si vous avez à cœur d'accueillir des gens, de faire en sorte que ces enfants ne soient pas à la rue, vous pouvez appeler l'association Un Toit Sous la Main, ou vous pouvez appeler par le biais de l'émission sur Principe Actif. On fera arriver vos propositions aux associations qui ont besoin de soutien, d'hébergement solidaire. Alors, un hébergement solidaire, ça peut être pour une nuit, ça peut être pour 2-3 nuits, ça peut être pour une semaine, ça peut être pour plus longtemps. C'est vous qui décidez, en fait, de la possibilité de ce que vous pouvez accorder. Voilà. Mais c'est pas normal que des enfants vivent de tels drames en France, en 2024, et même à Évreux. Voilà.
Non, c'est sûr que c'est pas normal. Et comme disais dans ce rappel, effectivement, les autorités françaises s'étaient engagées depuis des années à faire que plus personne ne dorme à la rue et qu'on en est loin.
Et j'ai parlé des enfants en général, sans parler de la situation administrative de leurs parents, parce qu'il y a des demandeurs d'asile qui, normalement, doivent avoir les conditions matérielles d'accueil. Il n'y a pas assez de place en CADA. Il y a des demandeurs d'asile qui sont à la rue avec leurs enfants. Je pense à un petit garçon qui s'appelle Tamsir, par exemple, qui est à la rue depuis le mois d'août. Mais il y a aussi les gens qui ont été déboutés de l'asile, qui sont en situation, effectivement, qui n'ont pas de papier, et qui, eux, dépendent du 115. Et le 115, il est saturé. Voilà, c'est parce que il n'y a pas assez de structures d'accueil. Et les enfants, ils n'ont pas à subir les lois qu'on fait subir à leurs parents. Voilà.
Et si vous voulez proposer des structures d'accueil, effectivement, enfin des lieux d'accueil chez vous, vous pouvez aussi nous contacter, on transmettra en nous envoyant des mails. L'adresse, c'est evreux@amnestyfrance.fr. Envoyez-nous des mails, on transmettra aux autres associations concernées. Voilà. On va changer de pays, puisqu'on va passer de la France à Gaza, à Israël et les territoires palestiniens occupés, parce que, en fait, il y a une nouvelle enquête qui vient d'être publiée le 5 septembre par Amnesty International. Alors, je vous rappelle qu'Amnesty International mène de façon très générale ses propres enquêtes, et quand il y a des dossiers qui sont faits, ce sont faits par des chercheurs d'Amnesty. Ça, pour la plus grande objectivité et pour la plus grande indépendance de l'association. Et cette dernière enquête montre qu'il y a de nouveaux crimes de guerre qui ont été commis par les forces armées israéliennes. Alors voilà, après les attaques et les prises d'otages commises par le Hamas le 7 octobre 2023, l'armée israélienne a répliqué dans un déclenchement de violence inouïe au mépris de la vie des civils palestiniens et palestiniennes. Prétextant des raisons de sécurité, l'armée israélienne a mené une campagne militaire de destruction massive dans la zone à l'est de Gaza, le long du mur qui démarque le territoire palestinien occupé par Israël. L'objectif affiché est de créer une large zone tampon pour protéger la population israélienne de potentielles nouvelles attaques par le Hamas en détruisant des tunnels et d'autres infrastructures terroristes. Entre guillemets. Nos recherches nous ont permis de conclure que dans les zones enquêtées, les destructions sont injustifiées et contraires au droit international humanitaire. Nos recherches montrent que les forces israéliennes ont détruit des bâtiments résidentiels, forcé des milliers de familles à quitter leur foyer et rendu leurs terres inhabitables. Au cours de notre enquête, nous avons pu identifier des terres récemment défrichées par les attaques israéliennes le long de la limite est de Gaza sur une surface d'environ 1 km à 1,8 km de large. Cette zone tampon élargie le long de la ligne de démarcation avec Israël couvre environ 58 km carrés, ce qui représente environ 16% de l'ensemble de la bande de Gaza occupée. Parce que la bande de Gaza, c'est tout petit. En mai 2024, près de 90% des bâtiments de cette zone, plus de 3500 structures, semblaient détruits ou gravement endommagés, et 59% des terres agricoles de la région ont vu leur état se détériorer, les menaçant de devenir inexploitables. Des fermes ont été rasées au bulldozer et des immeubles d'habitation ont été démolis. Des milliers d'habitations et des terres ont été rendues inhabitables. Un petit témoignage, les bombardements ont commencé le premier jour, donc le 8 octobre, le lendemain des attentats du Hamas. Mon oncle, sa femme, ses enfants et ses petits-enfants ont été tués ce premier matin. Mon fils est allé voir notre maison récemment et a constaté que c'était à peu près la seule qui existe encore dans la région. Mais elle est gravement endommagée. Tout autour, il n'y a que destruction. Des gens ont non seulement perdu leur logement, mais aussi leurs moyens de subsistance. L'ensemble de Gaza a perdu sa production alimentaire. C'est un témoignage recueilli auprès de Tahani Al-Najjar, une habitante de Cusa, qui est une ville de la bande de Gaza. Le droit international humanitaire est contraignant pour toutes les parties. Ça, c'est un rappel du droit et à un conflit armé. Il vise à atténuer autant que possible les souffrances lointaines humaines en temps de guerre. Dans le cas de notre enquête sur les destructions commises par l'armée israélienne pour créer une zone tampon, nous avons relevé plusieurs éléments qui enfreignent le droit international humanitaire. D'une part parce que le droit international interdit la destruction de biens d'un adversaire, sauf si celle-ci est justifiée par une nécessité militaire impérieuse. C'est-à-dire, excusez-moi, mais j'ai un peu de mal à lire, je manque de lumière. C'est-à-dire un objectif militaire légitime. Or, dans les quatre zones sur lesquelles nous avons enquêté, les destructions sont intervenues après que l'armée israélienne ait pris le contrôle opérationnel des zones. Les destructions n'ont pas été causées par des combats directs entre l'armée israélienne et le Hamas ou d'autres groupes armés palestiniens. Au contraire, dans ces parties de la bande de Gaza, des structures ont été délibérément et systématiquement démolies par l'armée israélienne. Notre analyse révèle une pratique généralisée le long du périmètre est de Gaza correspondant à la destruction systématique d'une zone entière. Ces habitations n'ont pas été détruites à la suite de combats intenses. La destruction d'une structure servant de couverture à un ennemi pour tirer sur les forces de l'autre partie pendant un combat peut constituer un objectif légitime. Toujours en droit humanitaire de la guerre. Cette application tactique ne s'applique que dans des cas enquêtés, dans les cas enquêtés, car au moment des démolitions, les forces israéliennes contrôlaient les zones et les combats avaient en grande partie cessé. Ensuite, parce que les attaques directes contre les biens de caractère civil sont également interdites, ces attaques constituent un crime de guerre. Lorsque nous avons par exemple enquêté sur le quartier de Shayava, nos preuves ont démontré que des bâtiments comme des écoles et des mosquées ont été prises pour cible par l'armée israélienne. L'armée israélienne a affirmé que certains de ces bâtiments abritaient des armes, des munitions ou des conduits de tunnels sans apporter de preuves. Bien que certaines structures aient probablement déjà été utilisées par des groupes armés, l'éventuelle utilisation future des biens de caractère civil par des groupes armés ne suffit pas à transformer des logements, des écoles ou des mosquées en objectifs militaires. la démolition punitive à titre de sanction collective de biens de caractère civil au seul motif qu'ils ont été utilisés par des groupes armés est interdite en droit international. Voilà, donc ça c'est un tout petit résumé de ce dossier qui a été publié donc il y a quelques jours par Amnesty International. Vous l'avez sur le site d'Amnesty en entier, hein, il est beaucoup plus long.
Il y a la carte, on voit très bien c'est Gaza. Ça. Moi ça m'a bien aidé parce que je ne connaissais pas tellement la...
C'est ça, exactement. Ouais. Donc on vous renvoie, cet article s'appelle donc « Destruction massive et injustifiée à Gaza, une enquête pour crimes de guerre doit être ouverte ». Oui, parce que donc l'article se conclut de la façon suivante. Amnesty réclame effectivement qu'une enquête internationale contre l'armée israélienne soit ouverte pour crime de guerre. Encore une fois, on précise qu'Amnesty International ne prend parti ni pour...
ce sont les faits.
Ni pour les populations civiles israéliennes, ni pour les populations civiles palestiniennes, mais dénonce tous les crimes qui sont commis par l'ensemble des deux parties. Donc nous appelons la justice internationale à enquêter sur ces destructions en tant que crimes de guerre. Et on rappelle aussi dans cet article à la fin qu'il y a une pétition à signer, donc n'hésitez pas, auprès des autorités, à envoyer auprès des autorités françaises. Et c'est une pétition pour demander un cessez-le-feu à Gaza, demander à Emmanuel Macron
de ne plus vendre.
D'appeler à un cessez-le-feu immédiat de toutes les parties civiles et de mettre fin aux crimes de guerre, de protéger les civils et de faire en sorte que l'aide humanitaire puisse parvenir à Gaza. Et comme vous l'a dit Edith, de suspendre d'armes. Aussi les ventes d'armes à l'armée israélienne qui continue à faire la France.
Allez Edith Thierry, on met nous la musique.
On va s'arrêter pour ce dossier, on passe la deuxième pause musicale, on se retrouve juste après.
Alors là, une seule musique, on est désolé.
Oui,
on
arrête de mixer, tu nous mets une seule musique.
Je pense que ça marchera bien. Yeah.
Viens, on saute sur la piste, on se prouve que l'on vit, qu'on existe, on résiste. Bien qu'on doute, qu'on hésite, on écoute les battements de cœur, les signes, tant d'hélas. D'à quoi bon qu'on remplacera par nos rêves qu'on embrassera. Viens, on danse sur ces mots doux, cette Santeria, cette magie noire, ce vaudou.
Sinora,
yeah. Sinora, Sinora. J'ai chanté les hauts, j'ai chanté les bas sans attendre la victoire. Inventé des mondes, réenchanté l'aube sans attendre le grand soir. J'ai bravé tous les dangers, Sinora. Toute cette beauté qu'on a fait, c'est nos larmes. Venant de l'au-delà, la musique est pour l'âme. Des chants d'Alabama aux prières de Brahman. J'avance, marche sur des larmes en jambes, des coulées de lave. Le diable dans les parages frotte façon Kizumba. Je vis dans mes chaos, je rembobine mes larmes, je reprends à zéro, je tire un rêve réel, la gâchette à mes lèvres, les mots fusent dans le ciel, se logent dans des comètes.
Sinora,
yeah, Sinora, Sinora.
Sinora,
yeah, Sinora, Sinora.
Sinora,
de la mer brillante Caraïbe aux rives Tanganyika. Combien de fois sommes-nous tombés, et pourtant nous venons de si loin que l'on s'étonne encore d'être là, juchés sur les épaules des géants.
Jump in the line, rock your body and time. Jump in the line, rock your body and time. Jump, jump.
retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty, pour la suite et la dernière partie de son émission. Désolé pour le petit cafouillage.
Alors,
au niveau
Didier,
du son.
Maintenant, il met une seule musique, du creux, une autre musique. Bon, c'est pas
comme
ça.
Comme il peut
Didier.
Pas mixer,
il n'a pas la platine.
C'est pas bon jour pour la technique ce soir.
Ah voilà. Ouais, mais ça va.
Voilà, voilà. Mais on va arriver au bout de l'émission. Et donc, de retour sur l'antenne pour la défense et la promotion des droits humains. Et c'est Christian, parce qu'une émission d'Amnesty sans bonne nouvelle, ce serait pas vraiment une vraie émission.
Ouais, et puis même, on va pas tout vous dire cette fois-ci, on en dira la prochaine fois, parce qu'on va
faire
assez de temps.
Et c'est Christian qui va vous
alors,
en parler.
Des bonnes nouvelles, avec un petit bémol quand même, vous allez comprendre pourquoi. Toumage réchappe à la peine de mort, mais la mobilisation internationale a payé, pardon, la condamnation donc du jeune rappeur iranien Toumage Safdehi a été annulée le 22 juin par la Cour suprême de Téhéran. Figure de proue du mouvement Femme, Vie, Liberté, l'artiste avait été arrêté en octobre 2022 et accusé de corruption sur Terre. Mais Toumage n'est pas libre pour autant et il devra affronter un nouveau procès. Par ailleurs, la politique répressive du régime n'a pas changé d'un iota. Téhéran utilise la peine capitale comme outil de répression politique pour semer la peur parmi la population. En plein été, le 6 août dernier, l'Iran a procédé en secret à l'exécution de Reza Rasael, un jeune homme de 34 ans ayant participé lui aussi au soulèvement citoyen iranien. Soumis à la torture et à des violences sexuelles, il avait été condamné à mort à l'issue d'un simulacre de procès. Donc vous voyez, il est libre, mais à moitié seulement. Australie, on en a beaucoup parlé. Julian Assange libéré, mais là aussi il y a un mais. Après 12 années de poursuites judiciaires rocambolesques, Julian Assange, fondateur australien de Wikileaks, a été libéré par un tribunal fédéral américain le 26 juin. Détenu au Royaume-Uni depuis 2019, il était poursuivi par les États-Unis qui réclamaient son extradition au titre de l'Espionnage Act. Très affaibli, il risquait 175 ans de prison. Julian Assange a préféré plaider coupable pour divulgation d'informations relevant de la défense nationale. Il a été condamné à 62 mois de prison, déjà effectué en détention provisoire. Une semi-victoire pour les défenseurs de la liberté de la presse.
Alors moi, j'ai une autre bonne nouvelle. Alors pareil, c'est un peu comme toi, Christian.
Demi-bonne nouvelle.
Ouais, c'est-à-dire que c'est les conditions qui sont un peu compliquées, puisque c'est des libérations dans un échange de prisonniers entre, d'une part, la Russie et le Bélarus, et d'autre part, l'Allemagne, la Norvège, la Pologne, la Slovénie, les États-Unis. Les autorités de Moscou et de Minsk ont gracié, libéré, expulsé. Expulsés, c'est-à-dire que voilà, on les met tout de suite dehors. 16 personnes, dont des militants et des défenseurs et des défenseuses des droits humains. Alors c'est cela dont je vais vous donner les noms parce que certains, on en a parlé sur l'antenne de Principe Actif. Donc il y a Oleg Orlov qui est opposant au Kremlin et qui est le coprésident de Memorial, donc l'organisation qui a été dissoute par Poutine. Alexandra Sacha Skochilenko. Alors pareil, on vous en a parlé au début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'était la jeune femme artiste qui, dans les supermarchés, enlevait les prix et mettait des petites étiquettes comme quoi la Russie a envahi l'Ukraine, il y a eu un bombardement. Et c'est pour ça qu'elle a été emprisonnée. Donc on est quand même aussi content. Et je sais qu'elle était en mauvaise santé en prison et très content qu'elle soit quand même libérée. Il y a aussi Lilia Tchankiv. Chani Veka, Xana Fedeula, donc ça, je n'ai pas forcément ce qu'elles ont fait, mais c'était aussi des procès iniques. Et Vladimir Karamurza, qui, lui, est un opposant et qui a dénoncé l'invasion de l'Ukraine, qui a plaidé en faveur des victimes et qui, quand il a été emprisonné, a dit on lui a dit, mais vous pouvez demander la grâce à Poutine. Non, jamais, je ne ferai jamais ça. Donc quelqu'un avec une une stature très, quand même très forte. Donc il y a aussi des journalistes. Il y a, donc on a dit, je vous ai dit 16 personnes. J'ai vu aussi un article du Monde parce que il y a plusieurs Russes qui sont déjà arrivés à Bonn et voire même en France. J'en ai un qui est arrivé en France ce matin et qui a rencontré des Russes qui sont déjà en exil. Et il y en a un, ça m'a frappé après. Donc ils racontent leurs conditions de vie là-bas et c'est quand même assez terrible. Je crois que c'est Olev Orlov, quand on est venu le chercher dans la nuit pour lui dire « tu as 10 minutes pour faire tes bagages », il a vraiment cru qu'on allait le tuer. Et puis il a été mis dans un avion et expulsé tout de suite pour donner les conditions de vie là-bas où c'est... alors c'est pas de la torture, mais c'est de l'isolement. Lui dit « pendant plus de 2 ans, j'ai eu un coup de fil à ma femme et un coup de fil à mes enfants ». Et isolé de tout le monde. Donc ça, c'est terrible. Et c'est au niveau de leur vie physique, mentale, très compliqué. Et il y en a un aussi, c'est pour ça juste que je vous donne ce commentaire-là rapidement. Il a reçu énormément de lettres. Donc quand on pense que pour notre mouvement Amnesty, la lettre, c'est le début du mouvement Amnesty, c'est-à-dire écrire pour libérer des prisonniers. Et là, c'est des lettres de Russes, donc plusieurs milliers de lettres depuis ces incarcérations. Et ben, ça donne quand même de l'espoir, parce que des Russes qui osent écrire à des prisonniers d'opinion. Voilà, on va dire que peut-être ces lettres-là vont amener des changements en Russie. Soyons optimistes.
Oui, de toute façon, ça arrivera forcément un jour ou l'autre, des changements en Russie. Mais bon.
Donc... Voilà, pour mes bonnes nouvelles, il y en a, voilà, j'en mettrai une autre fois, oui. Encore d'autres. Je garde.
C'est déjà
mais vous l'avez vu, ceux qui regardent le Facebook d'Amnesty, vous l'avez, l'autre que je n'ai pas dit. Alors je vous dis, ça se passe en Afrique et c'est une journaliste qui a été libérée, vous saurez plus la prochaine fois.
Je crois que Clarisse voulait vous parler, mais on va se dépêcher maintenant. Bah, vous voulez parler d'une émission de radio, c'est ça? Enfin d'un podcast, rapidement.
Podcast, oui,
rapidement.
J'espère que rapidement, de toute façon, j'ai pas d'autre alternative. Alors, c'est 3 petits podcasts à écouter sur le site d'Amnesty. We Made It, Sir in Power. Alors, écoutez We Made It, hein, c'est notre podcast sur des combats qui ont changé des vies, des victoires et qui ont changé des lois. Depuis MeToo, les femmes qui dénoncent les violences sexistes et sexuelles subies au cours de leur vie font preuve d'un courage inouï. Elles rebattent les cartes d'un système patriarcal ancré depuis des millénaires et elles sont les forces vives du changement. Le combat est long, mais elles sont puissantes. Le premier podcast, il s'appelle « Sans oui, c'est non ». Il dure 27 minutes. Donc en février 2024, la France s'oppose à une définition européenne commune du viol basée sur le consentement. Un mois plus tard, elle annonce vouloir inscrire cette notion dans la loi nationale. Pourquoi ce revirement de situation? Vu d'Espagne, ce débat paraît lointain. Donc, dans ce premier podcast, Alice Ackermann, qui est une conseillère de communication à la Fédération internationale des plannings familiaux, dit que... Ah bah oui, j'essaye de faire vite. Excuse-moi, vous m'avez pas laissé beaucoup de temps.
Je monte.
90% des femmes n'ont pas justice. Cela crée une énorme impunité pour les violeurs. Et le silence n'a plus lieu d'être. Le féminisme est un outil pour le progrès, déclare Anna Requena, journaliste féministe espagnole, donc dans cet épisode-là. L'épisode 2, ce sont les reines afghanes. Donc, il dure 34 minutes et il parle effectivement de tout ce qui a été mis en place depuis le retour des talibans au pouvoir en 2021. Les femmes et les filles sont exclues de tous les aspects de la vie sociale et privées de tous leurs droits fondamentaux. Là-bas, Radio Begum fait figure de résistance. Donc c'est sur cette radio qui existe donc en Afghanistan. Et la troisième partie, c'est salle
avec
trois petites étoiles.
Petits
c'est la haine 2.0, c'est-à-dire que slut shaming, doxing, deepfake, les espaces numériques sont les nouveaux terrains de violences sexistes et sexuelles. Et heureusement, des jeunes féministes prennent des initiatives et se battent chaque jour pour endiguer ce phénomène. Donc ça, c'est le troisième épisode et que vous pourrez écouter à partir de demain, 12 non, à partir d'après-demain, 12 septembre, sur le site d'Amnesty. Je vais voulu vous parler de ça parce que c'est en lien quand même avec un procès dont vous entendez beaucoup parler, qui est le procès des viols de Mazan, où Dominique Pellicot est traduit devant la justice pour avoir quand même mis sous soumission chimique son épouse Gisèle Pellicot. Et donc 51 hommes l'ont violée alors qu'elle était inconsciente. Et ça pose le problème du viol par soumission chimique. Et c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas passer sous silence. Voilà, j'ai essayé de faire très vite. Oui,
c'est très bien,
c'est
bravo.
Très bien. Donc avant de laisser l'antenne au laboratoire, on salue Manu qui vient d'arriver dans le studio. Il nous fait un petit signe de la main. Donc actualité locale, ça va être très vite, très court. On se retrouve, nous, sur l'antenne de Principe Actif, donc le mardi 24 septembre pour la prochaine émission, donc deux fois par mois, on reprend le rythme. Et également, on vous signale qu'il y a un film, alors on n'a pas la date de la sortie précise à Évreux, mais c'est un film à voir qui s'appelle « Les graines du figuier sauvage » qui est soutenu par Amnesty International et qui parle de la répression et des atteintes aux droits humains en Iran. Et le film a eu un prix spécial au dernier festival de Calme. Il va sortir à Évreux prochainement. On va essayer de tenir une table de presse. On va contacter le cinéma pour ça, mais pour l'instant,
mais de toute manière,
on
n'a
pas
voir
encore
le
de
film.
Date. Mais allez voir le film. Et puis donc, on mettra l'information sur les réseaux sociaux pour venir nous voir. Voilà. On laisse l'antenne et on se retrouve le 24 septembre.
Au revoir à tous.
Au revoir.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.